Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de découvertes rieuses pour vous, d'un affrontement pas rieur du tout pour eux. Chaque après-midi, nous faisons appel au sadique qui sommeille en vous. Votre mission, si vous l'acceptez, notez les journalistes d'Europe 1. 4 se succèdent au micro. À vous d'élire votre chroniqueur préféré qui sera couronné en fin d'émission sous l'égide d'un invité arbitre d'habitude assez bienveillant et qui a du mal à éliminer les journalistes les moins performants. Je dis d'habitude car l'équipe est sauvage agit sur nos invités comme un révélateur. Par exemple, mardi, on recevait Stéphane Rothenberg, le sympathique présentateur de Top Chef. On avait tous de lui l'image d'un mec sympa, bonne poire. Au moment du vote final, on a découvert un type flippant de sang-froid, le doigt sur la gâchette et la froideur d'un tueur à gages.
Pardon Anne, le sujet conso, je trouve un peu déjà vu. Au revoir, merci. Nicolas, très branché, très parisien, un peu intello.
J'ai ramené un livre de ma campagne, qu'est-ce que vous racontez ?
Je sais, mais il y a le côté un peu...
Je viens du Maine-et-Loire en plus.
Oui, je sais, mais le côté, les livres ont une odeur, enfin ça sent un
raciste.
Bien côté, dernière page de Libé, bof.
Sectaire.
Pas moi.
Il faudra probablement plus de 10 ans de psychanalyse à certains de nos journalistes pour se remettre de ce déferlement de violence, car perdre dans l'équipe est sauvage, c'est un peu...
La tristitude.
Et oui les amis, cet après-midi on accueille un vieil ami de la maison, bonjour Oldelaf.
Je suis pas si vieux mais oui je suis ami de la maison. Ouais.
Vous n'êtes pas si vieux mais vous êtes un vieil ami. Votre nouvel album L'Aventure sort demain, et L'Aventure c'est pas juste un titre accrocheur, en l'occurrence, il y a une vraie aventure
mais tout à
la
fait.
Conception de cet album, vous nous racontez ?
Eh ben c'est parti. Écoute, je crois que c'est une première déjà pour moi, ça c'est sûr, mais aussi peut-être dans le monde de la chanson. J'ai enregistré cet album dans un camping-car, figure-toi, sur les routes de France. On s'est baladé, on est parti à 4 et on est parti pendant un mois et demi à sillonner et puis à enregistrer ça ou là sur une banquette de canapé.
À écrire les chansons au fur et à mesure, ou les chansons étaient écrites et vous les avez juste enregistrées dans ce camping-car?
Les deux. J'arrive avec des bases parfois et puis je finis les paroles, je peaufine, et puis parfois il y avait des choses qui sont arrivées sur la route carrément.
On va parler de ce nouvel album, L'Aventure, on va l'écouter. Mais d'abord, Oldelaf, je vous présente mon crew. Oui, la direction m'a fixé pour mission de rajeunir l'auditoire d'Europe 1. Je m'y emploie avec des mots que j'ai entendus sur Skyrock. À mes côtés, hors compétition, mon bras droit. J'aime son côté street, straight from the ghetto.
Arrêtez, bande de bâtards que vous êtes, quoi.
Wesh, Macaille, faites du bruit pour Eva Rock.
Ah,
vous faites pas beaucoup de bruit.
Eva, je viens en faire un peu.
Oh, ça c'est beau.
Merci, Oldelaf.
Quelle ambiance. Alors, Eva, tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on garde. Est-ce qu'on zappe à la télé
à
et
fait.
Sur les écrans ce soir, vu que vous êtes notre expert média. Mais d'abord, Oldelaf, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. Face à vous, une étude récente le prouve, 99,9% des femmes interrogées seraient prêtes à quitter leur mari sans réfléchir en moins de 17 secondes pour partir vivre avec lui. Tout ce qui sort de sa bouche est érotique, même lorsqu'il commente l'actualité du salon de l'agriculture.
Des vaches laitières.
Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bravo Anis. Alors Anis, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? D'intelligence artificielle, c'est votre dada.
Oui,
ça, hein.
C'est un peu mon truc, hein. Je vous avais déjà parlé des artistes qui sont accompagnés d'ordinateurs ou d'algorithmes pendant les concerts. Et bien là je vais vous parler de l'inverse, hein. C'est un robot qui va se produire en concert, mais lui accompagné par des êtres humains.
C'est la fin du business pour Oldelaf.
Ah voilà, je flippe. Ouais.
À ses côtés Oldelaf, autre personnage gratiné de cette rédaction. Promu il y a quelque temps chef du service économie d'Europe 1, Emmanuel Dutheil ne touche plus terre. Ivre de son pouvoir et de son titre prestigieux, il évolue désormais dans d'autres sphères, inaccessibles à nous autres salariés ordinaires. D'où certaines de ses réflexions légèrement déconnectées du quotidien des Français.
Je ne sais pas si vous êtes allé, Mathieu, ou tous nos auditeurs récemment dans un centre commercial.
Mon Dieu, vous voulez dire une grande surface? Un hyper? Oh, quelle drôle d'idée, mais il y a tout ce qu'il faut chez Fauchon. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Je suis sûr que j'y vais bien plus souvent que vous au centre commercial.
J'adore les centres commerciaux.
Moi aussi.
Avec quel sujet comptez-vous rebondir au classement, mon cher Manu?
Bah, vu que vous nous avez accueillis avec votre mot de wesh, la bienvenue à mes crews, bah, moi je vous emmène en avion. Je serai donc votre équipier aujourd'hui. Et je vais vous permettre de dormir sur les plus longs vols possibles au monde, notamment d'Air New Zealand. C'est-à-dire que même en classe économique, on va enfin pouvoir bien dormir dans un avion.
Des couchettes en
ah bah
classe économie.
Faut garder un peu de secret quand même.
Ah pardon, je ne dis rien. Des bip en classe économie. Le suspense est entier. Merci Emmanuel Dutheil. Le programme est donné. L'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Oldelaf qui nous accompagne cet après-midi pour nous présenter son nouvel album, L'Aventure.
Je t'aime la France, je t'aime, je te jure. Je t'aime, mais parfois c'est dur. Je t'aime la France, je t'aime, c'est fou. Je t'aime envers et contre tout.
Alors,
Hold Enough, je montre sur Europe 1.fr la pochette de l'album où on voit effectivement un camping-car, mais c'est plus qu'un camping-car,
c'est un van.
C'est un van. Alors, je vais être très honnête, c'est pas précisément celui dans lequel on est enregistré.
Oh non, je suis déçu.
Mais alors, on est moyennement malhonnête puisque regarde à l'intérieur, il y a des photos du. Voilà, ça, on en est vraiment juste là.
Ça, c'est
là.
Vraiment vous.
Voilà, ça, c'est vraiment nous. Mais regarde, on voit un peu plus loin dans les photos. Je crois si on l'aperçoit. Ah non, ça, c'est moi, donc ça n'a rien à voir.
Oui, mais c'est important de le montrer parce que tu ne mets pas ta tête. Vous ne mettez pas votre tête sur le. Sur la pochette de l'album.
Écoute, ça, c'est plus ça, c'est... Alors c'est lié à quelque chose. Sur le dernier album qui s'appelait Goliath, on avait mis ma tête en gros et c'est celui qui s'est vendu le moins. On s'est dit
il y a peut-être un truc
à trouver au niveau communication. Ça a été très simple. Et donc là on s'est dit on va plus la mettre du tout. Et puis non, en vrai j'ai jamais eu volonté de me faire briller plus que ça. En revanche, je la trouve très très jolie cette pochette. Elle était faite par quelqu'un qui s'appelle Lorraine Bruant. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est le côté le camping-car. Et à l'époque il y avait ce côté bien, on part, on sait pas où on va. Ce qui est un peu ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on n'avait pas de.
Ah, vous êtes allé au hasard, vous n'avez pas d'itinéraire.
On avait des choses prévues, des envies, mais on a dû aussi jouer en fonction de la météo, puisque on a enregistré une partie au mois de juin, il faisait 14. Mmh. On a enregistré une partie au mois de juillet, il faisait 41.
41 dans le camping-car.
Et je peux te dire que ouais, ça a de l'incidence sur. Donc il fallait qu'on se planque vraiment dans des maisons aussi de temps en temps.
Mais c'est même si vous avez improvisé sur la route, c'était quoi? C'était les grosses villes de France ou c'était les petits bleds paumés?
On a fait plutôt les jolies routes. Hein. On voulait que ce soit quelque chose aussi d'esthétique, de campagne, mer, un peu de montagne, mais c'était vraiment surtout les jolis paysages. On pouvait se poser. Après, il y avait nécessité d'avoir des points de chute pour des histoires d'électricité et de vivre, hein, tout simplement, parce qu'on sait que la campagne française a des choses merveilleuses, mais à un moment, il faut
manger.
Tout simplement vivre. Et manger. Appelle le Wi-Fi.
Oui, il y a ce côté-là, cette dimension d'être connecté, mais la dimension de manger est importante aussi pour vous. On va en parler. Je crois que le guide Michelin n'était jamais loin dans ce camping-car.
Oui,
il aime l'aventure, mais avec le guide Michelin, il a choisi l'équipée sauvage pour sa promo. Hold la fête. Notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si demain, on voyageait allongé en avion? Et pas en première, pas en business, mais bien en classe éco. Ce n'est pas une idée folle, les couchettes en classe éco arrivent dès l'année prochaine. Emmanuel Dutheil vous explique tout. Emmanuel, à qui j'ai promis d'être sympa aujourd'hui. C'est vrai qu'à force de le charrier, ça a donné des idées à d'autres. Et désormais, même dans la matinale, Mathieu Béliard se fout de sa gueule.
C'est un nouveau pull, ça.
Oui, mais qu'à rétréci au lavage.
Oui, moi aussi, je dis que les vêtements rétrécissent quand je prends du poids.
Allez, à tout de suite, allez, je vais être sympa avec vous aujourd'hui.
L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Hold Enough est notre invité pour fêter la sortie demain de son nouvel album L'Aventure. Et l'aventure dans l'équipée sauvage, ça nous connaît. Chaque après-midi, nos journalistes se foutent sur la gueule au service de votre culture G. Un seul sera sacré chroniqueur du jour, celui qui vous aura offert le sujet le plus palpitant ou le plus concernant. Et justement, le concurrent qui s'avance vers le micro est un cadre, une référence. Tous les observateurs sont formels, sa 11e place dans notre championnat ne
sur
peut
12.
Être autre chose qu'un funeste quiproquo. Forcément, il est le chef du service éco d'Europe 1 et fournisseur officiel de rires nerveux d'invités.
Vous savez que c'est leur anniversaire de mariage. Au Grand-Duc et à la Grande-Duchesse, ils se marient le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et ils l'ont fêté ce matin sur Instagram.
Emmanuel Dutheil, aujourd'hui c'est une grande nouvelle pour ceux qui en ont marre de voyager plié en deux. Comme moi, je le dis tout de go, les couchettes arrivent en classe éco.
Oui, hein, je vais essayer de vous vendre un petit peu de rêve. Si
c'est déjà fait. Hein. Voilà. Déjà physiquement, fait. C'est vendu.
Je sais pas si, comme moi et comme la plupart des auditeurs, vous, à l'exception bien évidemment de Mathieu, on voyage tous en classe économique.
Vous en prie.
Et donc sur de longs vols notamment, c'est quand même la galère à chaque fois pour c'est trouver vrai. La bonne position pour tenter de s'endormir. Bon, moi j'ai une petite chance, hein, je fais 1m32 au garrot, je fais la blague comme ça avant que Mathieu arrive. Comme
ça. Il anticipe.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les longs vols notamment, on ferme à peine l'œil, on arrive complètement décati le lendemain matin. Et bien tout cela, c'est peut-être bientôt fini. Pourquoi ? Parce que Air New Zealand, l'une des grosses compagnies au monde, envisage de lancer ce qu'on appelle des capsules dortoirs en classe économique.
Alors Emmanuel, ça ressemble à quoi une capsule dortoir ?
Alors vous vous rappelez les trains de nuit de la SNCF quand il y avait de chaque côté trois couchettes ? Ouais. Bah finalement c'est un peu la même chose. Alors, je vous ai emmené une photo, c'est moins technique qu'Anissé et tous ces appareils. Alors, je ne sais pas si sur internet on pourra
la
voir.
Ça c'est une première classe, ça a l'air
non,
trop bien.
Non, c'est une classe économique et c'est pas mal fait. Quand je vous dis quand même les trains couchettes, c'est un peu la même idée. Là je vous en ai que deux sur ma photo.
Moi je suis fan du principe des photos à la radio.
Moi, j'ai précisé pour nos auditeurs qui peuvent
me regarder. Tu as précisé, c'est vrai.
Donc là, chaque lit mesure 2 mètres sur 58 cm. Il y a des draps, des couvertures, tout ça est accompagné d'un oreiller et même de bouchons d'oreilles, ce qui est quand même pratique parce qu'il y a une certaine promiscuité avec ses voisins.
Pour les amoureux ?
Eh ben non, il n'y a pas de lit double, mais il y a un rideau. Donc si vous voulez vous cacher avec votre amoureux sans que personne ne voit...
Les coquineries sont possibles.
Ou si vous trouvez dans la couchette d'en face...
Eva est intéressée, elle l'a dans le doigt.
58 cm de large.
Ben alors si vous mettez l'un sur l'autre.
Oui, ben voilà, c'est ça.
Ben là, ça fait vraiment longtemps que t'as pas...
C'était pour qu'il dise ça, c'était vraiment comme ça.
Parce qu'a priori, si on a envie d'être ensemble, c'est pas que pour dormir. Donc là, petite cerise sur le gâteau, vous avez donc ce rideau pour vous isoler. Ces cabines dortoirs seront dans la classe économique, c'est ça qui est très très important. Mais attention, ce seront des zones de repos, pas question de faire tout son vol
mais
là-dessus.
Mais c'est parce qu'ils sacrifient une partie
Ils vont sacrifier un bout de la classe économique pour ça. On pourra pré-réserver des tranches horaires pour se reposer donc au cours d'un long vol dans ces quelques capsules qui vont équiper ces classes éco.
On dort comme dans un endroit où d'autres auront dormi avant, potentiellement avec des inconforts.
Mais comme le train de nuit de la SNCF, pareil.
Mais non, parce que le train de nuit de la SNCF, si je me souviens bien, on avait sa couchette et on l'a gardé pendant tout le voyage.
Oui. Bien sûr.
Tu voyageais allongé tout
oui et non, parce que si on descend un arrêt plus tôt, j'imagine qu'il pouvait la relouer.
Ça partait à 21h. Il y en a encore qui fonctionnent. Et puis tu arrivais les premiers à 5h ou 6h du matin.
Alors, Air New Zealand, est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui pourraient se lancer dans l'aventure ?
Oui, il va y avoir sûrement d'autres compagnies qui vont regarder ça. Mais déjà, ce n'est pas un hasard si Air New Zealand le fait, puisque c'est la compagnie qui fait les vols les plus longs au monde. Donc, ils sont à la recherche de ce genre de dispositif pour attirer la clientèle. Ils espèrent le proposer à la vente. C'est pas encore totalement sûr, mais ils ont quand même vraiment présenté le dispositif. Ils pensent y arriver d'ici un an. Il manque encore les autorisations des régulateurs. Air New Zealand, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait parlé ici il y a quelques mois, puisqu'ils avaient été sacrés meilleure compagnie aérienne au monde. Donc là encore, ce n'est pas un hasard si c'est eux qui vont sur ce genre de choses. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils espèrent pouvoir vendre ce dispositif à d'autres compagnies, puisque c'est une invention que Air New Zealand a présenté ces derniers jours. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Air France avait également présenter une sorte de projet. Alors eux, c'était à l'entrée de la soute, et c'est au moment où ils avaient lancé cette compagnie éphémère qui s'est appelée June. Je ne sais pas si vous vous souvenez, J2O.
Oui, ça n'a pas très bien marché.
Non, ça a été un flop total, mais en même temps, la grande avancée, c'était de mettre des baskets aux stewards et aux hôtesses. C'était présenté comme très moderne, parce que jusque-là, c'était impossible pour des questions de sécurité. Enfin bon, passons les détails, vu que ça n'a pas marché. Mais déjà, à l'époque, ils avaient réfléchi à des systèmes de couchettes au niveau des soutes, mais dans tous les cas, les personnels navigants sur les très longs vols ont déjà des systèmes de couchettes. Donc là, on voit bien que tout le monde est en train d'essayer de réfléchir à des dispositifs qui pourraient nous permettre, en classe économique, de dormir un poil moins mal.
Voyager en écho dans le même confort qu'Old de Laf dans son camping-car cet été pour la création de son album. Voilà.
La seule question que vous auriez pu me poser qui était vraiment très intéressante, mais je vais me la poser, est-ce que ça va coûter plus cher ?
Ouais, mais t'as des cartes d'écrire dans tes relances !
Mais oui, est-ce que ça va
moment,
coûter
il faut,
plus cher ?
Il faut susciter quand même le réel intérêt.
Est-ce que ça va effectivement coûter comme une premium écho ou comme une écho normale ?
Ils n'ont pas encore totalement arrêté, mais vu que c'est un dispositif en plus, même si c'est de l'économie, fort à parier qu'il faudra payer au moins la réservation. Oui.
Moi j'ai une autre question. Aura-t-on toujours le droit de voyager dans 2-3 mois partout dans le monde et notamment en Nouvelle-Zélande accepteront-ils des gens qui viennent d'ailleurs?
Ce qui est assez certain, c'est que comme le SRAS, ça s'était malgré tout, ça avait été énorme au moment où c'est arrivé, ça s'était arrêté et on avait repris une vie totalement normale derrière en termes de transport aérien. Mais c'est vrai que pour la première fois depuis la crise de 2008, les réservations devraient être en baisse pour les compagnies aériennes et elles devraient perdre plus de 30 milliards de dollars.
C'était l'info économique en plus du chef du service éco d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Merci, cette chronique vaut-elle 3 points? Va-t-elle vous permettre de vous extraire de la 11e place qui est la vôtre aujourd'hui sur 12? Nous le saurons bientôt.
Europe 1.
À suivre, c'est un homme qui devrait être écœuré des nouvelles technologies, ne serait-ce que par les centaines de sextos qu'il reçoit quotidiennement, de groupies énamourées qui tentent de l'aguicher avec des photos et des propositions.
Et vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont assez perverses.
Oui, non, on ne peut pas savoir, et votre femme non plus qui nous écoute et qu'on embrasse. Oui, Anissa Mbida va se ressaisir et nous parler des nouveaux progrès sidérants de l'intelligence artificielle, désormais prête à remplacer les artistes. Et oui, Oldelaf, vous êtes en sursis. Ouais, vous êtes en sursis, je vous propose d'oublier cette triste réalité en vous écoutant. Je t'aime, Oldelaf sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'une palpitante compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui tentent de se montrer aussi passionnants que notre invité vedette, mais ce n'est pas facile. Notamment lorsqu'on reçoit comme hier ce véritable puits de science qu'est Laurent Deutsch, comédien érudit et dont le dernier ouvrage regorge d'infos étonnantes sur l'origine des mots de notre belle langue.
Vous racontez qu'il y a beaucoup de mots qui viennent des onomatopées. Mathieu Noël a un joli switch marqué Cocorico.
Cocorico, c'est le bruit du coq.
Et oui, c'est sur Europe 1. que vous l'aurez appris, Cocorico, c'est le bruit du coq, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, c'est Old Olaf qui nous accompagne. L'album qui sort demain s'intitule L'Aventure. Revenons, si vous le voulez bien, Olaf, sur ce voyage épique en camping-car. C'est là qu'a été créé l'album. Est-ce que la promiscuité, ça a été une source de création pour vous ou de tension avec vos musiciens? Il y a eu des moments difficiles ou ça a été qu'une grande rigolade?
Non, c'était très agréable. Si on avait des couchettes de 58 cm de large et on a pu vivre des moments extraordinaires. En effet, en s'empilant les soirées. Non, écoute, non, c'est, on savait à peu près à quoi on s'attendait. Et puis, j'ai la chance, moi, depuis pas mal d'années, de travailler avec les gens que je choisis. Voilà. Donc, on se connaissait bien déjà. Et puis, il n'y a pas de foudre relou dans l'équipe, parce que ça arrive, j'ai déjà voyagé sur des tournées où j'avais pas choisi de tourner, là il y avait des vrais malades et là c'est
bon, on se souvient des délogues qu'on faisait à l'époque de Michel Drucker sur Europe 1, il y avait Mathieu Madénian notamment, on peut le citer, bon c'était pas facile tous les jours.
On retrouvait des poils partout, c'était terrible,
heureusement ils sont blancs aujourd'hui. Et
alors, pardon pour la question, quand vous dites que vous avez enregistré dans ce camping-car, c'est-à-dire que vous faisiez des étapes, vous sortez tout le matériel, vous mettez face à la mer par exemple pour enregistrer, ou c'était vraiment le camping-car, le studio d'enregistrement?
Les deux, c'est que on a fait des voilà des on a fait des prises alors à l'arrêt on a fait des prises.
Non mais non, je passe la seconde. C'est juste de plus en plus vite. Un dodal.
Non, en fait, c'était pour des problèmes électriques. Figure-toi qu'on a essayé d'enregistrer en roulant et en fait, il y avait des petites baisses de tension du camping-car et tout. Donc, on le faisait de manière posée et avec une autonomie évidemment électrique particulière. Donc, on a fait ça. Et puis, parfois, on s'est posé, on est allé chez les uns, chez les autres. Puis, quand il faisait 41 dehors, on était très, très content de faire ça dans une maison un peu plus fraîche.
Alors, pour ceux qui vous connaissent, Old Olaf, on sait que vous mêlez des textes toujours très très bien ciselés et de l'humour. Vous dites, l'humour, c'est venu naturellement. Ce qui est marrant, c'est que le monde de la musique m'a toujours mal considéré. Vous disiez ça en 2014, ça a peut-être changé depuis, vous nous direz. Beaucoup de gens se sont dit, voilà un nouveau Patrick Sébastien. Je comprends même pas cette phrase. Les gens se disaient vraiment ça? Je me suis jamais dit ça de vous, même au tout début que je vous ai vu arriver chez Michel Drucker.
J'ai vécu des choses assez intéressantes, c'est que c'est toujours le cas. Ouais. Le monde de l'humour m'a accueilli avec les bras ouverts. Et ouais. Parce que vous ne voyez pas comme un concurrent, c'était quelqu'un qui faisait un truc un peu différent. Puis souvent, on était deux avec mon comparse Alain Berthier. Ouais. Et donc, on a vraiment été accueillis par tout le monde. En revanche, en musique, en disant, ouais, c'est, il fait rigoler, ouais, c'est pas pour nous. Et aujourd'hui encore, même sur cet album, précisément. Ouais. On a des phrases de programmateurs radio qui te disent oh, j'adore, je suis fan, je serai là, j'ai déjà pris mes places pour le concert. Ah super, donc tu vas passer à l'ordre. Bah non, je vais pas mettre un humoriste. Tu écoutes les chansons. Enfin, il y a des chansons Je t'aime qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a des sourires. Enfin, c'est de la chanson.
C'est de la chanson.
Et donc t'es catégorisé comme ça. Donc c'est un petit peu dur. Et par rapport au côté Patrick Sébastien, moi j'ai vécu programmateur des Franco qu'on avait traîné de force. Ouais, les Franco de La Rochelle qui étaient venus au concert à l'Olympia à l'époque, traîné de force par ma tourneuse, etc. Ma productrice de spectacle, et qui il vient vraiment en train dans les pieds et il est venu me voir en loge en disant je te demande pardon. Voilà, je me suis toujours fait une idée en effet sur ce que c'était. Je ne savais pas, je m'imaginais plein de trucs. Et c'est vrai d'ailleurs sur les collègues d'Europe 1, quand on était ensemble, il y en avait qui étaient venus voir le deuxième Olympia, etc. Et qui étaient, mais on s'attendait à un mec tout seul à la guitare qui faisait des chansons un peu sur la société. Mais ben non, c'est un spectacle.
Mais c'est le revers de la médaille du succès de La Tristitude, qui est peut-être la plus humoristique des chansons.
Et vraisemblablement. Et puis, attention, j'adore faire ça et j'adore faire rire. Et c'est un outil que je trouve extraordinaire pour dire des choses parfois graves. Mais c'est vrai que tu t'es catégorisé. Alors, est-ce que c'est une forme de jalousie, plutôt un dédain de l'humour de manière générale? Je ne sais pas.
On va essayer de combattre ça cet après-midi, oui. En tout cas sur Europe 1. Il a fait le tour de France en camping-car pour son dernier album. Les émissions de CO2, il s'en cogne. Lui, c'est tout pour la musique. Old Olaf est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, selon notre expert innovation, Anissé Mbida, ça y est, l'intelligence artificielle serait prête à supplanter l'humain, même dans un domaine a priori aussi humain que la création musicale. Et bah, faut-il le croire? Les robots vont-ils bientôt remplacer les compositeurs? Permettez-moi d'en douter.
Tu peux douter autant que tu veux, tête de nœud. Hein? Dans 2 ans, hein? Je présente l'équipe et sauvage mieux que toi. Oula. Et pour 3 fois moins cher.
Oh là, vivement pas demain alors.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue avec cet après-midi un artiste que j'aime beaucoup, même s'il m'a piqué mon concept, puisqu'en effet, l'été dernier, alors que la direction m'avait demandé de plancher sur une idée de team building pour renforcer la cohésion de la rédac, j'avais tourné ce spot interne.
Cette année, les résultats de la COGIP ont été spécialement catastrophiques. Nous avons battu des records d'échecs à un niveau jamais égalé. C'est pourquoi il est temps de retrouver la motivation à travers un séminaire pour nous remobiliser. Et quoi de plus beau pour nous que de partir tous ensemble en camping-car au bois de Vincennes pendant 2 mois.
Hol de là, vous m'avez piqué l'idée du camping-car.
On sera si bien dans ce si beau voyage, nous les quatre copains, les vagabonds sauvages. On dormira dessous la belle étoile, mais aussi pour...
Et oui, Hol de là, ce n'est pas que de l'humour, ce sont de très belles chansons. Ne m'oublie pas, extrait du nouvel album, L'Aventure. Alors évidemment, si l'équipée sauvage était partie sur les routes en camping-car, qui plus est dans la moiteur affolante de l'été, et si Anicem Bida avait été du voyage, il est évident que des mesures de sécurité drastiques auraient dû être prises vis-à-vis de ces groupies.
Pour éviter qu'elles se mutilent ou qu'elles donnent des coups dans les pignes hein, quand elles chamaillent,
oui,
par exemple.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais heureusement, le Tour de France Europe 1 en camping-car est resté à l'état de projet. Anicem Bida, aujourd'hui, vous nous parlez d'intelligence artificielle, l'IA, qui aurait, selon vous, franchi un nouveau cap.
Oui, parce qu'on a l'habitude de voir des musiciens, des artistes avec des ordinateurs qui utilisent des algorithmes. Hol de Laaf, sur le plateau, a son ordinateur. Ils utilisent des algorithmes pour les aider à trouver de nouvelles rimes ou à trouver de nouvelles mélodies.
Voilà, il fait juste ses mails.
Non,
en
je
ne sais
pas.
C'est
pour
les parents, le cas où. C'est la mémoire qui me jette des tours. Tu sais, 44 ans, c'est jamais.
Donc, il y a même souvent des algorithmes qui sont capables de composer complètement des chansons entières. Mais là, je vais vous parler d'un autre type de robot qui fait exactement comme Hol de Laaf, c'est-à-dire qu'il compose la musique, il écrit les textes,
les paroles aussi.
Il les chante, il danse aussi. Je ne sais pas si vous dansez pendant vos spectacles. Son album est en précommande, comme le vôtre. Lui, il ne sort pas demain, il sort un peu plus tard. Il est en tournée le mois prochain, comme vous. Et comme vous, son single vient de sortir, donc il est en pleine promotion de son album. On va écouter un extrait.
C'est un robot, ça ?
Il y a même un clip. Je le montre pour ceux qui nous regardent sur
europa.fr. Il est où sur le clip ?
Il est au milieu. Alors c'est un robot qui s'appelle Shimon le robot.
Comme Shimon Thérèse.
C'est ça.
Drôle de nom pour un ouais. Ça c'est vendeur.
Sa spécialité c'est de jouer du xylophone. Et donc les mélodies, les paroles, les arrangements, c'est lui qui les a composés.
Oh, il est mignon.
Alors c'est quand même...
C'est vraiment en manque, hein. C'est quand même une tige de métal avec une boule au bout, quoi.
Il y a des sourcils là, qui bougent quand même. C'est deux dignes de la tête.
On dirait que c'est Alien qui sort du ventre de John.
Exactement.
Mais quand vous dites qu'il a composé lui-même sa chanson, c'est-à-dire il y a bien quelqu'un qui l'a programmé derrière.
Oui, bien sûr, mais après on le laisse faire, c'est évidemment.
Mais on lui a dit quoi ? On lui a dit programme une chanson folk.
Ça fonctionne, on lui donne un thème, on lui dit par exemple, tiens, fais-moi une chanson sur l'écologie, une chanson sur le camping-car, une chanson sur l'amour, et lui il va composer tout seul quelque chose de gay ou quelque chose d'un peu triste, etc. Ouais. Donc il est quand même un petit peu aiguillonné, mais c'est de l'inspiration est donnée par l'être humain. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il est capable de composer des paroles et les mélodies, et les paroles, si on les écoute bien, ouais, dans la chanson qu'on vient d'entendre, il y a par exemple There may be music, a star in your mind. Ça, c'est parmi les paroles. Donc, c'est joli, ça sonne bien, sauf que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il doit y avoir de la musique ou une étoile dans ton esprit. Il dit aussi Home is where the rainbow comes. Ça ne veut pas dire grand-chose.
Ah, enfin, il y a plein de chansons qui veulent rien dire.
Exactement.
Quand vous écoutez Abba ou ce genre de truc, en fait, ça ne veut rien dire. Moi, j'y connais rien, même.
Donc, en fait, tout le monde n'est pas comme Hol de Laaf avec des textes qui veulent dire quelque chose.
C'est bien plus compréhensible que du Julien Doré. Non, mais j'adore Julien, mais c'est vrai que. Non, mais là-dessus, les chansons sont très, très
exactement,
onirées,
exactement. Donc on comprend pas très bien, mais c'est classique aujourd'hui. Et puis vous avez entendu cette voix de robot là. Il y a des gens qui détestent cette voix de robot.
Attendez, la voix qu'on a entendue,
si
j'ai pas trouvé très robotique, hein, justement. Non, ça pourrait être. Non.
Aujourd'hui, ça fait quand même penser au vocodeur qui est très utilisé, qui est très à la mode aujourd'hui. Non,
je trouve pas. Je trouve pas, ni c'est vraiment pas.
Je trouve, en contraire, moi, je pense que c'est très robot.
C'est une voix un peu à la Marcolis, très 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 aiguë. Je trouve ça assez. Ça fait pas robotique, je trouve.
Après, dis donc, ça vous plaît alors ce petit robot là? Moi, je pensais que je m'attendais que vous disiez, mais c'est horrible.
On peut le voir en concert.
Autant votre carotte à la dinde l'autre jour, c'était vraiment, vraiment. Alors, on voulait vraiment, c'était nul. Mais alors, ça tient la route.
Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'au départ, ce robot, c'est un robot xylophone qui accompagnait des jazzmen. Donc, il était là, parfois, il faisait des solos, il faisait des improvisations tout seul. Et on l'a perfectionné au fur et à mesure pour lui ajouter cette composante d'être capable de composer des textes, des paroles et des mélodies. Et maintenant, il part en concert. Il y a certaines dates exactement comme des vôtres qui sont déjà pleines. Donc, c'est le robot que vous avez vu sur Europe 1.fr. qui est aussi aux États-Unis. Il fait toute une tournée aux États-Unis. Donc, il va être au centre de la scène et il va y avoir des robots, enfin des humains, j'allais dire des robots,
des humains qui vont l'accompagner.
Lui, ouais. Il va jouer du xylophone, il va chanter et il va y avoir un guitariste, un batteur qui vont être derrière, mais c'est lui qui a composé les différentes chansons.
Mais c'est comme la chanteuse coréenne.
Alors, la chanteuse coréenne, elle est complètement virtuelle. Et elle a été composée par des êtres humains derrière. Elle performe, mais c'est une marionnette, quoi. Ouais. Là, on a quelqu'un qui fait une performance live et puis qui n'est pas une image, quoi, qui est vraiment, hein, même si c'est une tête d'alien qui bouge.
Et qui séduit Eva, visiblement. Mais ce qui est étonnant, c'est quand on va à un concert, souvent c'est pour la personnalité, le charisme du lead singer, du chanteur, comme on dit. Là ça
ou simplement pour écouter la musique en direct.
C'est vrai,
aussi,
c'est vrai, mais il y a quand même une partie de
parce
personnalité.
Qu'il y a beaucoup d'artistes
là,
qui sont pas très...
Allez, on va avoir du bal à... Je sais pas, acclamer un robot.
Les salles sont remplies à moitié d'ordinateurs et qu'on réserve leur place. Attention,
le copain robot,
oui, téléphone portable. Tout ça.
Non, mais moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'algorithmes, de plus en plus d'ordinateurs, de plus en plus d'intelligence artificielle qui vont s'insérer dans la musique. On avait l'habitude de se poser la question, est-ce qu'il faut distinguer l'artiste de l'œuvre? Vous savez, avec beaucoup d'artistes qui sont des meurtriers ou bien qui sont des violeurs. Eh bien, la question va se poser de plus en plus pour ces algorithmes. Est-ce qu'on va les écouter pour ce qu'ils sont, pour la musique? Ou est-ce qu'on va les écouter parce que c'est des intelligences artificielles? Et comme d'habitude, ça sera le public qui décidera.
Je sais qu'ils avaient fait ça pour les Beatles. Il y avait un robot qui avait pris les thèmes principaux, des phrases. Et
qui avait créé une autre chanson.
Ouais, c'est ça, une nouvelle chanson.
Qui aurait pu être une chanson de plus des Beatles. Ouais. Ah, oui. Moi, pour une fois, Anissé, je trouve que ce robot, enfin ce sujet et la réalisation de ce robot, je trouve que ça tient la route.
Vous irez en concert le voir.
J'irai peut-être pas jusque-là. Sauf si l'attaché de presse m'envoie une invitation. Son nouvel album sort demain. Hold Love passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, Eva Rock, une fois, a remporté un quiz. Depuis, elle subit humiliation sur humiliation. Hier, suite à ce qui semble être une distorsion dans la force, elle a failli l'emporter face à Laurent Deutsch sur la langue française. Elle était la meilleure, mais comme elle le dit elle-même...
Ils n'ont pas compris.
Oui, l'heure d'une nouvelle tôle a-t-elle sonné pour Eva? Je le crains.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Hold Love est notre invité à la veille de la sortie de son nouvel album, L'Aventure. Hold Love, impérissable inventeur du tube de nos vies, La Tristitude.
La Tristitude, c'est moi, c'est toi.
Même si c'est un tube, est-ce que c'est pas votre Born to be Alive à vous pour Patrick? C'est-à-dire que pour Patrick Hernandez, c'est-à-dire à la fois une chanson qui vous a lancé et en même temps, comme on en discutait tout à l'heure, ces gens qui n'ont pas de vous l'image, qui ne connaissent pas la totalité de votre œuvre et qui vous voient comme un humoriste plutôt qu'un chanteur.
En tout cas, déjà, je suis content. S'il y a au moins ça, c'est super. Enfin, je suis très très fier de cette chanson-là. Je l'adore et puis ça fait toujours un plaisir de la chanter. C'est juste que, et notamment à cause de ce que Europe 1 m'a fait subir. C'est un cas d'école qui est extraordinaire parce que même la SACEM ne savait pas quoi faire. Mais en fait, je suis le seul mec au monde à qui on dit écoute, ta chanson est super, ce serait bien que tu changes les paroles à chaque fois. Mais pourquoi? Et c'est un travail incroyable.
C'est pas de bol quand même.
Mais c'est
alors Charles Aznavour a toujours chanté la bohème, on lui a jamais demandé de changer les paroles.
Oui, le couplet sur Montmartre, là, mais non, couplet sur les gobelins. Mais non. Et en fait, c'est infernal parce que on me demandait de faire des refrains sur la tristitude de la Saint-Valentin, de Noël.
Il y a combien de versions de la tristitude? On les compte même.
Déjà celle qu'on a, j'ai faite à l'antenne. On est à 40, 50, je sais pas.
Mais comment ça se passe pour les droits d'auteur alors?
Et ben justement, ça posait problème parce que la première version, on l'avait coécrite avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Duboc, et elle était éditée par quelqu'un, mais à chaque fois c'est moi qui réécrivais tout, souvent le matin avant d'arriver à l'émission. Enfin, vous connaissez
le truc, oui.
Et puis en fait, du coup, il touchait toujours la même page, mais donc il fallait, on n'a pas trouvé la solution.
La tristitude dont un des couplets aurait pu être jouer un quiz contre Eva Rock et perdre. Ça ne rime pas, mais croyez-moi, Hold Love, vu ses stats, c'est la grosse tristitude. Êtes-vous prêt à relever le défi?
Oui,
oui, c'est l'heure du quiz.
Mais moi je réponds plus.
Alors,
Emmanuel Dutheil, je perds à chaque
pour
fois.
Pour le quiz du jour qui vous oppose à Eva Rock,
je reviens quand même.
Eva, si vous pouvez vous taire pendant le lancement, ça serait aussi bien. J'ai décidé de rendre un hommage appuyé à L'Aventure, votre dernier album Hold Love, qui a été composé et enregistré, on le disait, dans votre camping-car. Le principe du jeu est simple. Moi aussi, j'ai joué de la guitare dans ma Jeep Cherokee. Le plus rapide de vous deux à me donner soit le chanteur, soit le titre, marque un point. Concentration maximum. C'est parti.
Ça, c'est une chanson d'Abba. C'est Dancing Queen.
Dancing Queen, Abba, l'oreille d'Hold Love.
Mais vous avez vraiment trouvé des gens qui enregistrent des morceaux dans leur voiture
dans une Jeep Cherokee. Dans ma Jeep Cherokee. Bah, je prends du temps. Je prends du temps pour apporter quand même à cette émission une dimension festive. Et vous doutez de mon talent.
Ah oui.
Alors attendez, j'ai pris ma guitare aussi pour jouer une autre chanson. Eva, vous avez très mal démarré. Essayez de vous ressaisir.
Allons-y.
On écoute.
Moi, j'ai.
Hold the Love, plus rapide.
New York avec toi.
New York avec toi de téléphone. Oh, je sens qu'elle va être battue à plate couture.
Oui, je l'ai vu celle-là en plus.
Je suis désolé.
Pour une fois que t'avais une chanson. Extrait numéro 3, les amis.
Moi,
c'est Charles Aznavour, rue Sarah. Enfin, j'habite au sol avec maman.
La bohème.
Comme ils disent. Ah,
comme
il a fallu.
Comme
il a fallu. Bon, oui, vous n'avez même pas la bonne réponse.
Quoi.
Donc, pas de regret.
N'importe quoi.
Vous l'aviez ?
Oui.
Dans un très vieil appartement. Rue Sarazade.
Vous, Dutheil, vous êtes nul en musique. Hein.
Bah, je suis insensible.
Alors, Dutheil, non.
C'est un bloc de glace.
Ça, c'est un truc exceptionnel. Que Renaud Capuçon avait failli fondre en larmes en découvrant ça. La maladie d'Emmanuel Dutheil, il est insensible à la musique. C'est-à-dire que vous lui mettez les sardines de Patrick Sébastien et le deuxième mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, c'est la même chose pour lui.
Bah là, c'est du bruit que je viens d'entendre, oui.
Oui, mais là, ça, c'était du bruit.
Par contre, les cours du Nasdaq, là,
ça m'émoustille totalement, là, vous imaginez pas.
Extrait numéro 4. Nos auditeurs auront-ils reconnu aussi vite Cole de Laf qui a déjà levé la main?
C'est Do You Remember, mais je vais dire Cool and the Gang. Mais
non, c'est l'erreur! C'est l'erreur!
C'est
la catastrophe, on vous enlève 10 points d'un coup.
Oui,
c'était Earth, Wind and Fire, September. Ça. Le point est attribué à Eva Rock.
Ah, c'est chouette!
C'est cadeau!
C'est
cadeau! Ah, c'est fou cette erreur qu'on commet sur Earth, Wind and Fire, vous n'êtes pas le seul. Hein.
Mais non, mais j'ai toujours un doute entre les deux, c'est très mal. Très mal.
Extrait numéro 5. Alors là, je ne sais pas si vous avez reconnu cette chanson chez vous, mais dans le studio, il se passe quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que le quiz du jour oppose chaque jour Eva Rock contre l'invité. Et depuis le début de l'émission, c'est pourtant la 122e émission, Anissa Mbida lève la main. Comme si à un moment, j'allais lui donner l'opportunité de répondre. Alors que non, Anissa, vous ne faites pas partie du jeu. Et de toute façon, vous avez levé la main plus tard que notre invité, Hold the Love, qui nous dit...
Je prends Stevie Wonder, I just called to say I love you. I love you.
C'est fou comme je suis nul au blind test. Alors, mais
Eva,
c'est incroyable,
on pourrait jouer
quoi.
Ensemble.
Non, si je peux me permettre, ce n'est pas vous qui êtes nul aujourd'hui, c'est Hold the Love qui est très fort.
Ah non, je suis nul. Franchement, j'adore Stevie Wonder.
Ne vous faites
Wonder,
pas de mal
quoi.
Comme ça. Ne vous faites pas de mal comme ça.
Non, mais moi j'ai la liste sous les yeux. Hein, tu vois,
ah,
toutes les gens...
d'accord.
Il y avait une faute de frappe sur la Sweden Fire.
C'est donc Hold the Love qui remporte le blind test du jour, ce qui est vraiment très étonnant. Hold the Love, on se connaît depuis quelques années. On a eu une autre vie avant celle-ci, puisqu'on a été, c'est vrai aussi, mais on a été auxiliaire de vie de Michel Drucker. Vous étiez chargé des cathéters, moi de la poche urinaire, de beaux souvenirs. Est-ce que ces chroniques sur Europe 1, c'était quand? 2011
De 2011 à 2013, ouais.
À 2013. Ça a été le déclic pour vous?
Oui, totalement. C'est à plusieurs égards parce que j'avais jamais prévu de ma vie de faire de la radio et je me retrouve. Je viens juste faire la promo avec la tristitude. Hein, tu vois, ce jour-là, j'étais arrivé juste pour. Et on me dit, attends, il se passe un truc en fait.
Je me souviens de ce jour, j'y étais.
Mais vraiment, pour moi, c'est le. Ouais, y a un virage. Et puis, d'abord, la tristitude est devenue quelque chose d'important. Mais on a vu les salles aussi se remplir. Il y a une vraie fidélité. Plein de gens d'Europe 1 sont venus découvrir ce que je faisais du coup sur scène. Ça a été génial. Et puis surtout, c'est qu'il y a des amitiés qui sont restées fortes avec beaucoup de gens de l'équipe. Tu vois, au dernier concert à Paris, il y avait Charlotte Gabri qui était là, et puis Mathieu, on se voit
Mathieu
très régulièrement, voilà, c'est vrai. Et puis voilà, dès qu'on se croise, Jérôme, voilà, Jérôme Commandeur, était à Bordeaux, on s'est retrouvés dans un bar après nos concerts à tous les deux, enfin nos spectacles.
Jérôme dans un bar, j'imagine que la soirée n'a pas dû être triste.
Oh, on a rigolé comme des petits cochons, c'était incroyable.
Partir faire le tour de France en camping-car, déjà en soi, c'est sexy, mais alors en plus, si c'est lui qui conduit, on dit banco. Hold the Laf est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage, c'est des infos pour briller dans les dîners, du lol pour rentrer chez soi avec le sourire, mais aussi des idées d'activités pour le week-end. Tenez, vous par exemple, Anissé, vous avez fait quoi le week-end dernier ?
Des selfies nues, complètement bourrées.
Bien. Sinon, pour des idées d'activités, disons, plus familiales, il y a Régional Géographique, notre décrochage quotidien en région. Aujourd'hui, on vous parle d'une expo à ne pas manquer à Toulouse, mais à Paris aussi, il se passe des choses, Eva.
Mais oui, est-ce que vous rêvez de voir Madonna en vrai, en
oui
concert ? Eh bien, Europe 1 vous invite au concert de Madonna à Paris, au Grand Rex, c'est mercredi prochain, le 4 mars, avec la personne de votre choix. Et pour jouer, ben, vous tentez votre chance en envoyant Madonna par SMS au 739-21, 75 centimes plus coût du SMS, de SMS pour jouer. Le tirage au sort aura lieu demain matin dans la matinale de Mathieu Béliard. Vous dépêchez parce que les dernières places, eh bien, elles sont sur Europe 1.
Pas besoin de venir trop tôt. Hein.
Non, voilà.
Prendre votre temps pour arrêter.
Voilà. Si vous êtes en retard, c'est pas très très grave.
Après, il y a une chance de l'avoir quand même.
Voilà. Oui. Vers 739-21, Madonna.
Bonne chance à tous. Si vous gagnez, vous aurez peut-être la chance d'attraper au vol la petite culotte de Madonna. Si vous perdez, Eva vous envoie la sienne en cadeau de consolation.
Oui, oui.
Allez, on part à Toulouse. Juste après, justement, Madonna sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Nous sommes toujours en compagnie d'Oldelaf, qui, pour son dernier album, L'Aventure, qui sort demain, a fait un véritable Tour de France. Tour de France que nous faisons à notre manière chaque jour dans l'équipe sauvage grâce à la séquence régionale géographique. Oui, la France est douce et elle a tant à nous offrir en termes d'activité. Aujourd'hui, direction Toulouse. Bonjour Benjamin Peter.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour Oldelaf et bonjour à tous.
Benjamin, bonjour. Vous nous emmenez au Quai des Savoirs à Toulouse où se déroule l'exposition Code Alimentation. Et l'idée, c'est d'explorer ce qu'il y aura demain dans nos assiettes.
Et oui, et dès que vous pénétrez dans l'exposition, vous êtes projeté en 2050. Vous êtes missionné par une agence secrète pour ramener du futur les meilleures idées autour de l'alimentation. Et dans cet avenir imaginé par des auteurs de science-fiction, vous avez des propositions complètement folles. Je vous propose par exemple le symbiote, collection printemps-été 2050. Ça se porte comme un bracelet et en réalité c'est un petit animal qui se nourrit des nutriments de notre sang et en retour viendrait nous alimenter. C'est assez répugnant. Sinon je vous propose le porcotier, le fameux arbre à côte de porc, comme son nom l'indique. Et que nous présente Laurent Chicoineau, c'est le directeur du Quai des Savoirs.
C'est une plante qui, en fait, dont les fruits sont comme des côtes de porc, d'où son nom porcotier. Donc c'est l'idée que finalement, en transformant génétiquement une plante, on va l'amener à produire des fruits qui auraient le même goût que la viande, même la même texture. Il y a de plus en plus de technologies de transformation pour transformer des végétaux en steak, mais ce n'est pas évidemment de la vraie viande. Ça pose la question du rapport à la viande qu'on a aujourd'hui.
Alors ça fait rêver, hein, c'est un peu comme un lapin dans un four à micro-ondes, hein, comme le chante Oldelaf. Sinon, je peux vous proposer aussi le Détoxom, une pilule qui vous permet d'éliminer immédiatement les excès du dernier repas ou de votre passage au fast-food. Ça me serait bien utile de temps en temps. Ou le miroir intelligent qui, en nous voyant le matin, nous conseille d'éviter le sucre aujourd'hui ou de manger davantage de légumineux.
Benjamin, vous êtes sûr que vous n'étiez pas plutôt au salon pour la dépénalisation du cannabis ? C'est quand même un peu étrange que vous nous racontez.
Oui, je vous concède, c'est un peu la tristitude. Mais évidemment, je vous ai parlé que des pires vues de l'esprit imaginées par les auteurs de l'exposition. Ils proposent aussi des projets plus attirants. Le livreur à vélo ou par drone de produits locaux en circuit court. Où je vous propose le plantoïde, une ferme urbaine aquaponique dont des projets existent déjà. Ou encore la poubelle intelligente.
C'est quoi aquaponique ? Parce que personnellement, je connais beaucoup de mots, mais il y en a certains que je connais pas.
Aquaponique, ça veut dire que vous avez sur un même endroit, vous avez des poissons en bas qui permettent de nourrir la plante au-dessus. Vous, en fait, tout réside au même endroit.
Ah non, excuse-moi. Je n'avais pas compris. Je crois que c'était...
Vous pensiez qu'il y avait des poneys peut-être.
Mais l'aquaponais, parce que c'est une activité. Faire du poney dans l'eau, parce que c'est une activité que certains font.
C'est vrai.
Oui. Et je croyais que c'était un adjectif.
Ah ben, je crois qu'en fait, il n'y a pas de salon pour la dépénalisation du cannabis. Il est déjà dépénalisé, visiblement.
Exactement.
Elle n'est pas suivie. Pardon, reprenez Benjamin.
Voilà, en tout cas, il y a la poubelle intelligente aussi qui trie tout seul les déchets. L'objectif finalement de l'exposition, c'est de s'interroger sur nos modes de consommation. Que veut-on manger demain ?
En fait, ce qu'on montre aussi beaucoup dans cette exposition, je crois, c'est que l'avenir, ça ne sera pas manger des pilules, ça ne sera pas manger des insectes, en tout cas pas du tout uniquement, et en tout cas sûrement pas en Europe pour les années qui viennent. Mais c'est continuer notre alimentation tout en la faisant évoluer sensiblement sur des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et sur une meilleure compréhension des impacts sur la santé en fonction de qui on est.
Voilà, et en sortant, vous votez pour les projets qui vous plaisent le plus, vous faites le tri, c'est là que vous allez retrouver confiance en la nature humaine, puisque c'est la ferme urbaine et les poubelles intelligentes dont je vous parlais qui pour le moment recueillent le plus de suffrages, alors que le plat aux multiples odeurs, sorte de plat neutre sans goût,
oula,
auquel on ajouterait tout un tas de parfums et de goûts artificiels, comme on ajouterait du sel et du poivre, est le projet, heureusement, le moins plébiscité.
C'est plutôt rassurant. Heureusement. Merci Benjamin Pétard, Oldelaf, vous remercie, et on viendra, on n'a pas tout compris.
compris, mais on viendra faire de l'aquaponie avec vous.
Avec plaisir.
À Toulouse.
Avec volontiers. Le basque subaquatique, je vous conseille aussi.
Merci beaucoup, Benjamin Péter. À bientôt. Europe 1. Quand l'humour et l'info se bécotent allègrement, le tango fou de l'équipée sauvage continue. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Deux nouveaux journalistes vont entrer dans la danse. L'un d'entre eux, Jérôme Lacroix, le sait. L'une des phrases qu'il a prononcées la dernière fois à ce micro risque d'être détournée de mille et une manières. C'est le jeu, il le connaît. Et puis en même temps, dans une émission où tous les sons sont réutilisés, quelle idée aussi de s'exclamer
« I am gay ».
A tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos fringants compétiteurs. Nos deux premiers journalistes ayant tout donné, ils vont à présent être remplacés par deux collègues tout frais. Avec eux, on va parler révolution dans le sport féminin et street art. Olivier Pouls viendra nous livrer sa recette express pour épater vos proches au dîner. Et notre invité Oldelaf, dont le nouvel album sort demain, poussera peut-être la chansonnette. C'est là tout l'éclectisme de l'équipée sauvage. On passe d'un univers à l'autre, toujours avec le sourire et toujours avec une élégance dont on ne se départit jamais. Vous savez, quand les gens dans la rue m'arrêtent et me demandent « c'est quoi l'équipée sauvage ?» Tout le monde en parle, ça a l'air génial. Je leur réponds toujours « Oh ma foi, l'équipée sauvage, c'est une émission hybride, à la croisée du journalisme et plus que de l'humour, je dirais de l'esprit, dans la veine de Desproges, de Vos, plus près de nous, Édouard Baird. » Bon, le problème, c'est qu'après, les gens parfois écoutent pour vérifier si j'ai pas survendu le truc. Tous les mots français qui finissent par « e-t-t-e » sont féminins, vrai ou faux ?
Faux.
Branlette ? Quéquette ? Ah bah non.
Un hélicobite. Le mec qui a inventé ça, il s'est créé sa page Wikipédia, il a soutien Mordicus aujourd'hui.
Et soutenir un hélicobite Mordicus, c'est joli. Ouais bon, ok, bon, ok. Les proches de Vos et Édouard Baird après une soirée open bar vodka. Global.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'élégance des Varocs.
Oh putain.
Le sérieux de nos journalistes. Vous êtes au cœur de l'équipée sauvage. Deux heures d'une joute sanglante opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent au service de votre culture générale, sous l'œil d'un invité arbitre dont la voix comptera triple tout à l'heure. Son nouvel album, L'Aventure, sort demain. Oldelaf est avec nous.
Je t'aime la France, je t'aime, je te jure. Je t'aime, mais parfois c'est dur. Je t'aime la France, je t'aime, c'est fou. Je t'aime envers et contre tout.
Alors le livret de présentation dit 14 chansons parfois drôles, parfois pas. Comment vous expliqueriez votre style à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Oldelaf ?
C'est le pire truc à faire parce que vraiment je demande à chacun de venir découvrir pour se faire son avis. Et en effet, s'il y a des chansons sur lesquelles, sur la même chanson, je vois parfois dans le public, il y a des gens qui sont en train de rire et d'autres qui sont en train de pleurer sur la même chanson. Ça peut être le cas sur une chanson comme Maman, tu vois, ouais. sur le disque. Et donc. Voilà, j'ai juste envie de c'est la chanson. Voilà, c'est la chanson et la chanson je pense humaine puisque parfois on est très triste tous autant qu'on est, parfois on est très gay, on a besoin des deux. C'est dur pour relater le monde de faire que des chansons tristes, que des chansons marrantes. Il y a besoin d'un mélange à mon avis.
Eva lève le doigt, elle a quelque chose d'intelligent
non,
probablement à dire.
Mais parfois on vous compare à Benabar. C'est juste pour donner une ambiance pour les gens qui vous connaissent
pas.
Est-ce que ça vous convient
ou... Oui, c'est. Je crois que il y a des chansons qui sont un peu sociales, qui parlent du quotidien, et on essaie de le faire avec des mots simples et voilà. Donc, je pense en ça, il y a un point commun, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je croise avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc,
on boit des coups, c'est ça. C'est ce que vous allez dire.
Mais pas que. Ça a pu arriver, mais pas que. Vraiment.
On continue d'évoquer ce nouvel album, L'Aventure, qui sort demain. Juste le temps, Oldelaf, de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. Face à vous, deux traits de caractère peuvent expliquer sa présence parmi nous aujourd'hui, le courage ou l'inconscience. En effet, Jean-Philippe Ballas, qui a voulu faire le malin hier, part avec deux points de handicap, vous l'annonce aujourd'hui. Ainsi en ai-je décidé, suite à sa perfide remarque hier, alors que j'avais fait une micro-mini-nano-rikiki toute petite faute de français. Pour gagner, certains journalistes comme Jean-Philippe Ballas sont prêts à tout.
Ils sont prêts à tout.
Il a dit sont prêts à tout ?
Ouais.
J'ai dit sont prêts à tout ?
Ah bah ça, tu me couperas. Hein.
Jean-Philippe Ballas, j'espère une chose pour vous, qu'au Pôle emploi, vos conseillers soient prêts à tout pour vous dégoter un nouveau job. De quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
C'est vrai que c'est un métier, la radio, quand même.
Petite enflure.
Petit con. Je vais vous raconter plus sérieusement comment des artistes new-yorkais, des graffeurs, ont empoché plus de 6 millions de dollars face à un promoteur un peu filou qui s'en était pris à leur mur. Voilà, ça rigole pas.
Le street art, qui est vraiment de l'art en fait.
Bah oui, dans street art, il y a art.
À ses côtés, mon cher Oldelaf, quel séisme pour sa femme lorsqu'hier, à une heure de grande écoute, il a enfin craché le morceau
« I am gay ».
Le soir venu, fatalement, une fois les enfants couchés, ils ont eu une petite explication. Madame Lacroix, on la comprend, a exigé de plus en plus d'explications. C'est alors que Jérôme, un peu embarrassé, a levé le doigt vers ce poster des Village People qu'il avait punaisé au-dessus du lit conjugal comme un message subliminal, une bouteille à la mer, et il lui a avoué
« J'aurais voulu être un gendarme ».
Eh oui, et pas n'importe lequel. Bonjour Jérôme Lacroix.
J'ai rien dit de tout ça.
Maintenant que les choses sont claires, ouais. Vous pouvez peut-être nous livrer le thème de votre sujet du jour, Jérôme.
Je vous l'annonce, cet après-midi, moi je suis le faillot numéro 1 des patrons d'Europe 1. Ça fait des mois qu'on vous raconte sur Europe 1, qu'on vous propose d'écouter Le Monde Changer. Et ben ouais. Moi ce matin, je vais vous raconter ces incroyables transformations qui sont en cours dans le sport féminin au niveau du monde entier. Comment aujourd'hui, ce ne sont plus, en gros, les femmes qui doivent s'adapter au sport, mais le sport qui s'adapte aux femmes.
Alors, merci Jérôme. Alors, dans les vestiaires des filles avec Gégé Lacroix ou dans un squat du Queens avec Jean-Philippe Ballas, quelle perspective séduira le plus nos auditeurs en quête de sensations fortes ? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Si je vous dis Oldelaf, vous me dites, on vous a posé la question, et vous nous dites assez rapidement...
La tristitude, c'est quand j'ai plus de batterie sur mon téléphone.
La tristitude, c'est quand on a un verre de vin, que le téléphone sonne, qu'on veut décrocher à la hâte parce qu'on veut pas louper l'appel, et que du coup on fait baldinguer le verre sur le mur et donc il n'y a plus de vin. Quoi.
Et bien quand on sort de la voiture et qu'on met les pieds dans une flaque d'eau. La tristitude, c'est quand on fait des travaux chez soi, qu'il y a des entrepreneurs qui sont là, qu'on ne pense pas leur dire qu'en fait on a une ouverture sur la terrasse mais qui n'est pas une évacuation. Et qu'en fait, il vide tout le ciment qui va avec, en fait, dans la cave.
Quand t'as trouvé un cadeau pour ta mère, que t'arrives, que tu te retournes le dos et qu'il y a une autre nana qui est partie avec entre-temps. C'était des petits plats avec des poissons et ma mère, elle adore les poissons. Trop dommage, j'avais trouvé le cadeau.
À la tristitude, hein, c'est par exemple de voir le zizi de Monsieur Griveaux.
Ça fait mal.
Je m'en fous du zizi de Monsieur Griveaux. Qu'il circule, c'est pas un problème. Après tout, qui n'a pas vu un zizi dans sa vie?
Ça fait super mal. Non, c'est vrai.
N'est-ce pas, hein?
La tristitude.
C'est fou comme c'est la tristitude moi. Inspire tout le monde, en fait. Chacun veut écrire un couplet de la tristitude.
Je vois, c'est sûr que j'ai une nouvelle tristitude qui vient de s'écrire à l'instant.
Alors, Oldelaf, avant le succès qu'on connaît, vous étiez prof de musique, vous avez commencé en collège.
Je l'ai été, ouais, c'est ça, pendant 3 ans.
Pendant 3 ans, ça vous a pas plu plus que ça?
C'est très dur, en fait, et c'est terrible. Mais en fait, c'est qu'il y avait d'une part, j'étais dans un endroit qui était pas facile. Alors, il faut savoir que c'était quand même le même établissement que là où Michel Leb était prof de philo.
Comme quoi.
Et c'était à Cachan, et c'était des enfants qu'il fallait déjà leur apprendre avant de...
Oui, avant d'apprendre la musique.
Ouais. Et puis la musique, j'étais dans une salle où il n'y avait même pas de fenêtre, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de piano. La flûte à bec, si tu veux. Moi, je pense qu'on n'était pas là. Ouais, on n'était pas. Et vraiment. Et c'était très dur. Donc ça me permet de savourer chaque jour qui se fait où je peux faire le métier que j'avais envie de faire et tout ça. J'ai eu la chance d'être professeur de cours particuliers. Ça, j'ai donné beaucoup de cours particuliers à des gens d'ailleurs qui sont devenus célèbres pour certains. Mais
Michael Jackson.
J'ai Aurélie, une des deux Brigitte.
C'est vrai.
Aurélie, j'étais son professeur de piano. J'ai été aussi professeur de Laura Domange, qui est une humoriste. Ouais. Voilà. J'étais professeur de Michael Dorian, animateur de Non-Stop People. Voilà. Donc voilà, j'ai eu une carrière de professeur de star.
Ouais, il a surtout été le prof de musique d'Eva Rock. Et c'est clairement pas le meilleur truc qu'il ait fait. Oldelaf est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Dans une émission aussi compétitive que la nôtre, où les coups bas sont fréquents entre les journalistes en compétition, j'aimerais saluer le fair play de Jean-Philippe Ballas, qui pour l'instant n'a pas commenté le coming out de son rival du jour, Jérôme Lacroix.
C'est sa différence, c'est presque sa déviance.
Oui, en fait, il attendait juste son heure, le petit salopio. Eh bien, votre moment arrive, Jean-Philippe. Le street art, c'est vraiment un art. Ce n'est pas les artistes qui les disent, c'est la justice américaine. Et c'est une révolution. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quatre journalistes, une seule couronne, l'équation est aussi tragique que simple. Sous le regard amical mais exigeant de notre invité arbitre Oldelaf, venu nous présenter son album L'Aventure, disponible demain, notre troisième concurrent du jour, Jean-Philippe Ballas, va vendre chèrement sa peau. Même s'il le sait, je ne lui ferai aucun cadeau vu les propos calomnieux qu'il a tenus sur moi hier, n'hésitant pas, les amis, à me dépeindre comme une diva. Moi, une diva infernale et odieuse avec le petit technicien, et reportant la faute sur eux lorsque je ratais une transition. Oh, balivernes évidemment, c'est pas du tout mon genre. Qui gagnera Pékin Express? Pardon, parce que je suis troublé, c'est pas du tout la musique que je veux ça. Tu mets la musique de Jurassic Park, je suis là, la montée quoi.
Ah oui, ça rigole pas là.
Ça, c'est les stars, hein. C'est toujours la faute des autres.
Oui, alors avançons. Jean-Philippe Ballas, avec quel sujet allez-vous tenter de ne pas finir l'émission avec moins de points? Ce qui est votre score pour l'instant.
Je vous emmène à New York, c'est assez classe, non? Quartier du Queens, dans une vieille usine désaffectée, on en a plein là-bas évidemment. D'ailleurs, elles sont souvent recouvertes de tags, de graphes, ces usines. Et d'ailleurs, c'est complètement fait exprès pour celle-ci, puisque au fil des années, elle a d'abord été un squat, puis elle s'est transformée en vrai centre d'art contemporain, une résidence pour plein d'artistes là-bas. Et le propriétaire des murs, c'est à signaler, il est tout à fait d'accord, parce qu'en plus, le lieu, il commence à avoir sa petite réputation au fil du temps. Sauf que le propriétaire, il va finir par changer d'avis. En 2010, Jerry Wolkoff, c'est son nom, Jerry décide que finalement ce serait mieux de gagner beaucoup plus de sous en rasant l'usine pour construire à la place une tour d'immeuble. Alors évidemment, les artistes sont moyens d'accord, d'ailleurs pas du tout d'accord du tout. Ils entament une action en justice, la justice qui va leur donner raison, puis qui va changer d'avis, et là le propriétaire se dit « faut pas perdre de temps ». Alors une nuit, comme dans les films, il va envoyer des hommes de main pour mettre un grand coup de blanc sur les murs. Il y a 20 000 mètres carrés quand même de murs dans cette usine. Et les hommes de main, ils vont effacer tous les graphes. Il y en a 100 000 environ. Quelques mois plus tard, il a le permis de démolir. Et tout est réglé en septembre 2014. Le problème, justement, c'est qu'entre-temps, le propriétaire, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a voulu aller trop vite. Parce qu'il devait respecter un délai légal, c'est ça qui est important, un délai légal de 90 jours pour que les artistes puissent retirer leurs œuvres. Alors,
mais comment ils auraient pu retirer leurs œuvres? Ça, c'est pas possible.
Excellente question. Alors, on peut démonter les murs, on peut s'arranger.
Les photographier, peut-être.
Ce qui est important surtout, c'est qu'ils les considèrent comme des artistes à part entière. L'œuvre de street art, les graphes qu'on voyait, d'ailleurs, j'ai retrouvé des photos sur le net, il y avait vraiment des œuvres à part entière. C'est du street art et c'est considéré comme de l'art contemporain finalement. Ce qui fait qu'au final, le proprio, il a dû payer 150 000 dollars pour 45 œuvres chacune. Hein. Donc je multiplie 150 000 par 45 et ça fait 6,75 millions de dollars quand on voulait construire une tour d'immeuble. Ça fait un peu cher payé. Alors le juge notamment cite Banksy, vous savez que c'est un des plus célèbres artistes de street art, et d'autres artistes donc pour bien expliquer qu'on peut pas faire n'importe quoi avec le street art désormais. J'en profite d'ailleurs pour glisser un petit message personnel à ma progéniture pour lui dire que ce qui s'est passé dans la cage d'escalier de la maison, c'est pas du street art, c'est
de la
du vandalisme. Et ça se paiera. Voilà.
Merci Jean-Philippe Ballas. Un poil moins d'insolence et vous remporterez peut-être un jour les 3 points de la victoire. Quand l'après-midi touche à sa fin, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Dans ces cas-là, deux solutions. Soit on demande à notre invité, Oldelaf.
J'aimerais bien que vendredi, on aille se bourrer la gueule. Après, on ira à l'hippo, il donne des chips.
Oui. Ou alors, on peut demander à Eva Rock qui nous dira ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé. Juste après quoi? Bah non, pas juste après. Néa Someday, c'était ce qui était prévu. C'est certainement très bien. Hein. Musicalement, c'est certainement formidable. Oui. Mais on a la chance d'avoir Oldelaf avec nous. Et on a la chance d'avoir Oldelaf et sa guitare avec nous. Et donc, Oldelaf plus sa guitare, ça va donner La Tristitude, version 2020.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue sous l'égide aujourd'hui d'un artiste qui est un ami, mais qui n'en reste pas moins exigeant. Oldelaf, si vous aviez un conseil à donner à nos journalistes.
Lavez-vous. Voilà, j'aime les gens propres.
Ah, ça, je vous l'avais dit, il est sympa, mais il a son franc-parler. Et Oldelaf en 2020, c'est désormais ça.
Maman, si papa était vivant. Maman.
Alors, vous le trouvez toujours aussi comique, Oldelaf, hein? Il y a des très belles chansons sur cet album, très poignantes. Oldelaf, vous n'êtes pas que musicien et chanteur, vous êtes aussi comédien. On vous a vu dans la série
Hérocorps de Simon Astier. Vous étiez aussi sur scène dans le rôle du cheval à bascule dans Le Soldat Rose 2 que j'écoute en boucle avec mon fils. Est-ce que la carrière de comédien, ça vous tente? Vous aimeriez développer cette facette-là de votre
financièrement,
votre
métier? Oui.
Financièrement, ça peut être, c'est rentable?
Non, en fait, je m'amuse beaucoup et j'ai la chance de faire plein de choses que on m'invite à faire des choses que je ne sais pas faire. Et j'adore apprendre et c'est vrai pour la comédie, je m'amuse, mais j'ai jamais voulu faire ça à plein temps parce que j'aime trop la chanson pour ça. Mais c'est vrai que j'ai été accueilli plein de fois. J'ai fait la série avec Tom Villa d'ailleurs, autre copain de l'époque Europe 1, et qui a fait la série Sans mensonge. Et pareil, je m'étais beaucoup amusé. J'ai même été embarqué dans l'équipe Bref.
J'ai joué, oui,
j'ai joué la dernière minute du dernier épisode. Ce qui fait que je me suis retrouvé invité sur des plateaux de télé
pour parler l'équipe Bref.
Oui, bon, bah, c'était une aventure.
Une belle aventure humaine.
Oui, c'est ça. Non, c'était Can et Navo qui m'avaient invité à participer. C'était super. Mais c'est vrai que je m'amuse beaucoup à faire ça. Et j'ai récemment eu l'occasion, été invité par Elise Moon pour jouer dans le dernier Duc au but, où j'ai fait une apparition. Je suis vraiment le rôle central vraiment de ce film, le pivot. Et c'est là où on se rend compte que c'est plus qu'une comédie, parce que là, on rentre vraiment plus dans la comédie française qu'autre chose. Et personnage de policier, voilà.
Alors, le saviez-vous, mon cher Oldelaf, la tristitude en 2020, c'est aussi perdre 17 minutes par soir à s'engueuler avec son conjoint pour réussir une fois sur deux à ne pas se mettre d'accord sur quoi regarder sur Netflix, selon une étude de l'université d'Oxford. Eh bien, figurez-vous qu'il y a désormais 17 minutes de gagner, la rubrique des Varrocks, pour nous aider.
Alors, l'avantage des plateformes, mon cher Oldelaf, on le dit pas assez, c'est aussi cette possibilité formidable de regarder un programme à n'importe quelle heure. On est d'accord.
Eh bien, c'est bien que vous vous réveillez, parce qu'on est en 2020, donc effectivement...
Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ah. Et donc, de ne pas dépendre du bon vouloir des chaînes qui retardent de plus en plus le début de leur prime, soit 21h15 hein, en ce moment, sur les chaînes commerciales notamment. Voilà pour l'énervement. Le CSA vient d'ailleurs d'épingler TF1 et TMC, c'est pour ça que je vous en parle. Pas sûr que ça change quoi que ce soit. Donc, on va sur les plateformes, notamment mycanal.fr, pour garder quand vous voulez une série qui est intitulée Kiding, avec dans le rôle principal le talentueux Jim Carrey, et à la réalisation pour 6 des 10 épisodes de la première saison, Michael Gondry. Alors, ils avaient déjà travaillé ensemble pour un
Comment
film
s'appelle
absolument
la série, Eva
magnifique, Kiding.
Kiding, Kidding.
Mais c'est pas Michel Gondry?
Tu dis pas Michael Gondry?
Il est français?
Non. C'est très gênant.
Michel.
Vous êtes sûr?
Alors, donc, direction, mycanal.fr, pour regarder quand vous voulez une série intitulée Kiding.
C'est très gênant.
Allez, donc direction mycanal.fr pour regarder quand vous voulez une série intitulée Kidding, avec dans le rôle principal le talentueux Jim Carrey, et donc à la réalisation pour 6 des 10 épisodes de cette première saison, Michel Gondry. Alors, ils avaient déjà travaillé ensemble pour un film magnifique, est-ce que vous en souvenez?
Eternal Sunshine
of the Spotless Mind.
Exactement, je vous ai laissé dire tous les deux en anglais. Voilà, exactement.
Qui n'avait pas été traduit d'ailleurs.
Qui n'avait pas été traduit, puisqu'en français c'était comme ça qu'on l'avait.
J'aurais une place pour quelque chose que je. Ouais, pour le film.
Alors, Kidding, c'est l'histoire de Jeff, c'est une star de la télé pour les enfants et il s'appelle Monsieur Pickles. Il vit au milieu de marionnettes type un peu la rue Sésame, vous voyez, ou même Casimir. Il est invité, Monsieur Pickles, dans un célèbre late show et il ne peut s'empêcher de chanter une comptine que tous les Américains connaissent par cœur grâce à son émission. You can feel anything at all, anything at all, you can feel it. Alors, Mr. Pickles, c'est vraiment une star aux États-Unis. Tout le monde le connaît, toutes les générations le connaissent. Mais voilà, Jeff, lui, il va pas bien. Il a perdu un de ses fils dans un accident de voiture. Il est séparé de sa femme. Son autre garçon lui fait la misère. Son père, qui est producteur de l'émission, et sa sœur le saoule. Rien ne va. Et l'homme gentil qu'il est se retrouve confronté quand même à un monde cruel. Et l'univers merveilleux des marionnettes, lui, se transforme en enfer. Alors, malgré ce pitch, eh bien, la série, elle oscille entre séquences émouvantes et scènes absolument hilarantes. Jim Carrey est parfait. Catherine Keener, dans le rôle de la sœur, est remarquable également. Les critiques, je dois vous le dire, ne sont pas unanimes sur cette fiction qui compte 2 saisons. La deuxième vient d'être mise en ligne. Pour ma part, moi, je trouve qu'il se dégage une poésie absolument rare dans une fiction, et notamment une fiction américaine. Et le personnage de Mr. Pickles nous renvoie quand même aussi à nos souvenirs d'enfance. C'est absolument délicieux.
Monsieur Cornichon, on peut le dire.
Monsieur Cornichon, exactement. C'est Kidding et c'est sur mycanal.fr.
C'est Kidding et surtout, vous prononcez vraiment bien Kidding.
Vous avez vu ça?
Mais je pense que vous êtes bilingue, en fait.
Oui, bah, c'est à peu près ça.
Vous avez travaillé aux États-Unis, ouais, non?
Ouais.
Non,
parce que ça sonne. J'appelle même Michel Gondry, Michael Gondry.
Michael Gondry, ça vous est arrivé, effectivement. Europe 1. Ça bouge dans le sport féminin, les amis. Convention collective avec les congés maternité en Espagne et prise en compte des cycles menstruels en Angleterre. Les joueuses ont eu gain de cause. J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les seulement éthique, mais aussi sportif, car la prise en compte des cycles menstruels qui impactent les performances des joueuses serait justement l'un des secrets de la domination américaine sur le foot féminin mondial.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël. Ils ont troqué le Colt 45 pour le Big 4 couleurs, mais la violence est la même. Chaque après-midi, sous l'œil d'un invité d'honneur, aujourd'hui Hold Love, venu nous présenter son nouvel album L'Aventure, disponible demain, eh bien, les journalistes d'Europe 1 les plus courageux se retrouvent à l'arrière du saloon pour se mesurer. Or, voici notre ultime concurrent du jour, le Kid d'Issy les Moulineaux, équivalent parisien du Far West, également surnommé Gégé la Déconne, rapport à sa passion pour les jeux de mots foireux, jeux de mots qui parfois le privent bêtement de la victoire alors qu'il avait fait une belle chronique, comme mardi face à Stéphane Rothenberg.
Je te colle buzin.
J'abuse, hein.
C'est bon, là. Ouais. Votez pour moi, s'il vous plaît, Stéphane, sinon je chute au classement et là, c'est Pétrin Express.
C'est bossé.
Jérôme Lacroix, ce soir, vous allez nous parler des cycles menstruels des joueuses de foot, je vous en conjure, pas de jeu de mots. Zéro jeu de mots.
Il m'a choisi, Stéphane Rothenberg.
Il a finalement
après
voté pour
ce
vous
jeu de mots.
Alors peut-être, oui, alors parfois ça marche dans l'autre sens. C'est bizarre, ça dépend de l'invité.
Bon, sur Europe 1, on vous raconte le monde qui change depuis plusieurs mois. Je suis assez fier de vous annoncer cet après-midi une transformation majeure qui se profile, enfin qui est déjà en marche dans le monde du sport. La fin de l'un des derniers tabous du sport, la question des règles dans le milieu sportif. C'est un tabou qui tombe depuis notamment que la section féminine du grand club londonien de Chelsea vient de décider que les séances d'entraînement, toutes les séances d'entraînement, seraient désormais 100% adaptées au cycle menstruel des joueuses.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors je me suis plongé dans les résultats d'un travail monumental et vraiment passionnant d'une chercheuse, médecin du sport et athlète américaine. Elle s'appelle Georgie Breunvels. Alors je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais vous savez que la période menstruelle, c'est le temps de fortes variations hormonales qui ont une forte influence sur le physique. Première partie du cycle, jour 1 à jour 14, en moyenne bien sûr, forte sécrétion d'œstrogènes. Conséquence, eh ben les filles à ce moment-là, elles peuvent tenir des entraînements beaucoup plus intenses. Seconde partie, jour 14 à jour 28,
sécrétion, c'est très précis.
Mais bien sûr, sécrétion de progestérone, diminution des performances. Capital également, les œstrogènes de la première partie de cycle, elles provoquent, selon la chercheuse dont je vous parle, une distension, un relâchement des ligaments. Et là, le risque de se blesser est beaucoup plus important. Il faut donc, pour les dames concernées qui sont à ce moment-là de leur cycle, eh ben, s'échauffer un peu plus longtemps, mais aussi récupérer plus longtemps après l'effort. Voilà. Il faut travailler avec nos cycles hormonaux, pas contre eux. C'est ce qu'elle résume, cette scientifique. Et elle a créé pour ça une application pour smartphone. Chaque joueuse y mentionne les informations sur ses cycles, qui sont très variables d'une femme à l'autre. Ces infos sont compilées par le staff, les médecins. Et grâce à ça, eh ben, on adapte les séances. Alors cette application dont le club de Chelsea vient de se donner, elle a déjà fait ses preuves. Où ça ? Eh ben, au sein de la sélection nationale féminine américaine. Elles en sont fières et il y a de quoi, parce que c'est ce qu'elles disent. C'est aussi grâce à cela qu'elles ont remporté la Coupe du Monde féminine en France l'été dernier. Alors,
mais ça paraît évident quand vous le racontez, c'est fou. France, ça n'existe pas encore. L'équipe de France féminine de foot, elle joue comme ça sans se préoccuper des cycles.
Je peux vous raconter un truc, pardon. Je peux juste vous préciser un truc. C'était il y a quelques années, maintenant on le fait un petit peu moins, mais pour justement éviter ce genre de variation sur le corps de la femme, on donnait des pilules pour qu'on n'ait plus nos règles.
Alors,
du tout. Hein.
J'y viens. Absolument, je vais en parler. Justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Je voulais vous citer cette phrase d'une grande sportive américaine. Les règles pour les sportives, c'est carrément la merde. C'est ce qu'avait dit l'ancienne nageuse américaine Libby Trickett, triple championne olympique. Il faut toujours pour elle avoir un œil sur le calendrier des grandes compétitions et un autre sur leur propre cycle menstruel. Et quand malheureusement, il y a interaction, et ben elles enchaînent par exemple une deuxième plaquette de pilules pour retarder le cycle. Vous imaginez, aujourd'hui, alors on n'en est pas encore à adapter les calendriers internationaux, mais côté entraînement, ben les filles entraînées comme les garçons, c'est plus possible, ça doit finir, ça va finir. Et c'est vraiment une révolution pour tout le sport féminin.
Et autre révolution dont vous voulez nous parler aujourd'hui pour le sport féminin, en Espagne.
Oui, l'Espagne où les matchs de foot au féminin, c'est ça. 1739 personnes à Madrid pour un match Atlético de Madrid-Barcelone en mars 2019. C'est le record mondial d'affluence pour un match de club. Alors en Espagne, depuis des mois, les footballeuses de ce championnat elles protestent. Ça s'est vu notamment en novembre par une grève générale. Ça a provoqué l'annulation de tous les matchs lors d'un week-end. Elles demandent une convention collective, être des salariés, quoi. Et aussi un salaire minimum de 16 000 euros bruts par an, donc on est à des années-lumière, les garçons, parce que la plupart des joueuses, bah, elles travaillent en moyenne 4 fois plus que ce qu'elles sont payées. Alors ça y est, c'est signé, et ça c'est historique, 16 000 euros bruts annuels, mais aussi des congés payés, des congés maternité, ah non, ça n'existait pas avant, et des garanties en cas de blessure. Voilà, ça c'est le monde qui change et surtout qui tourne dans le bon sens.
Oldelaf, comment vous jugez cette évolution ?
J'ai pas bien compris ce que tu entends par règles, menstruation, tout ça.
Je dis non, dans le camping-car, il n'y avait pas d'être de sexe féminin.
Ah bah non,
dans ce
ils ont été triés sur le volet, crois-moi. Ah. Non, mais je trouve ça super. Je trouve ça super de s'y intéresser. Et il faudrait faire pareil pour les hommes en fonction des cuites et des soirées pour adapter les entraînements. Mais c'est super. Mais c'est vrai que je trouve ça assez terrible quand on doit aller contre la santé. En effet, à chaque fois, avec, tu dis, enchaîner deux plaquettes pour tenir des compétitions, pour et surtout quand tu es nageuse, on sait bien ce que ça peut entraîner.
Certaines sportives, pardon, pendant leur carrière, n'avaient pendant de très longues périodes plus du tout de règles, des cycles qui sont revenus seulement à l'issue de leur carrière.
Et il y a eu pire, notamment en athlétisme, des athlètes qui ont été mises enceintes exprès des entraîneurs ou par leurs copains en l'occurrence pour avoir les pics hormonaux au moment de la compétition. Voilà. Et ça a existé, ça n'a pas été un cas isolé.
Vrai, c'était bien. Et juste une question qui se pose là, du coup, quand je vous regardais, Eva, c'est la fois où vous avez battu Marie-Josée Perec à la course.
J'étais pas
enceinte. Vous n'aviez pas eu d'entraîneur un peu
qui vous avait poussé
à la performance.
Public, voilà. C'était incroyable, quoi. Alors, c'est vrai qu'elle dormait, mais c'était magnifique quand même de voir Marie-Josée qui dormait à côté et Eva qui contraçait de toutes ses forces. C'était
génial.
Allez,
on y va maintenant, elle dort, elle pionce,
c'est
on y va.
Mon moment.
On remercie Jérôme Lacroix pour cette belle chronique. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire ? Nos auditeurs et Oldelaf se concertent. Ils vous feront savoir leur réponse juste avant 18h.
Europe 1.
Comme chaque soir, je le sais, je le sens, vous êtes tiraillés. Votre appétit et votre goût des bonnes choses vous dictent de passer en cuisine pour préparer avec soin le dîner du soir. Mais votre flemme vous dicte tout autre chose. Et dans votre tête résonnent en boucle ces quelques notes.
Oh non.
Oui, votre fainéantise ne vous crie qu'une seule chose.
Ne passons pas à côté des choses simples. Knaki Erta.
Heureusement, une solution existe. Elle s'appelle Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise, qui vous offre chaque soir une recette goûteuse que même moi je peux réussir. Et c'est pas peu dire. A tout de suite pour Délices in Extremis.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Luxe, vanne et volupté, vous écoutez L'équipe est sauvage. 2 heures où le rire et le journalisme vont main dans la main au service de votre bonne humeur et de votre érudition. 2 heures également placées sous le signe de la bienveillance, notamment grâce à nos invités qui, souvent émerveillés du niveau de notre émission, nous couvrent de louanges, comme Laurent Deutsch hier pour notre spéciale langue française.
Le français usuel, c'est 30 000 mots. Dans le dictionnaire Larousse, il y en a 30 000. 30 000 dans le Petit Robert. Dans les dictionnaires les plus sophistiqués, ça peut monter jusqu'à 100 000. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, les gens d'Europe 1, ils s'expriment avec 400 mots.
Oh, aujourd'hui, comme il a été lui aussi un type d'Europe 1 à un moment de sa carrière, on peut compter sur lui pour ne pas nous planter un couteau dans le dos. C'est Oldelaf qui nous accompagne ce soir. Et demain, Oldelaf, c'est le jour J.
Il a déjà connu des filles, il s'en rappelle. Saint-Michel. Saint-Michel. Il dirait pas non pour un rapport sexuel. Mais attention, car ce soir, c'est la fête de Michel. Pour l'occasion, tous ses amis, ils lui offrent rien. Mais c'est pas grave, car Michel, il a besoin de personne. Et ce soir, il va danser, au cas où, bien. Une démarche de joli cœur, une petite claque sur l'âge de videur.
Votre nouvel album de Laf s'appelle L'Aventure. Là, on entend le titre C'est Michel. Alors, c'est qui Michel ? C'est quelqu'un de votre entourage ? Un personnage totalement fictif
ou... Je pense que c'est quelqu'un de notre entourage à tous. C'est quelqu'un qu'on croise dans un temps.
Michel Drucker.
Mais c'est vrai que nous, on a eu un Michel en commun.
Oui, on a eu ce Michel-là. Donc, moi, je visualise maintenant. C'est pas gênant.
Non, je crois pas que cette chanson soit pour Michel Drucker. Mais c'est un prénom que j'adore. C'est vraiment mon prénom fétiche. J'ai beaucoup de personnages de mes chansons qui s'appellent Michel. Je trouve ça extraordinaire, l'abondance de Michel dans les gens, dans les naissances d'après-guerre, le baby-boom, c'est un peu le baby-Michel.
Oui, d'ailleurs, on note que chez les bobos, il y a plein de noms qui reviennent, la Léon, tout ça, des noms un peu vieux qui reviennent à la mode. On note que 2 noms ne reviennent pas à la mode, c'est Michel et Bernard. Ouais. Les prochains bobos de Belleville qui vont appeler leur gosse Michel et Bernard, ça sera la nouvelle tendance.
Ça viendra, moi j'aurais été fan, si j'avais eu une petite fille, j'aurais bien aimé le Michel pour le Michel des Beatles, tu vois.
Michel 2LE, ça
c'est... Mais bilan, c'est le même prénom, hein, tu vois, donc même si tu mets une connotation différente, mais en tout cas, non, mais je suis fan du prénom, j'aime beaucoup, c'est très doux.
Dans l'album, vous avez une chanson qui s'intitule Saint-Amour, et au sacrilège, le personnage de la chanson parle d'un bon Bordeaux.
Il dit merci, le Saint-Amour était super, quel bon Bordeaux. Moi je dis oui, pour faire plus court, je vais pas me lancer dans la géo. On est assis dans la voiture, eux ils se tiennent, nous font coucou. C'est Marie qui conduit bien sûr, pendant que moi je cuffe tout doux. Oh Saint-Amour,
L'explication est là. Vous aimez, on sait que vous aimez la gastronomie, vous aimez le pinard aussi.
Je m'intéresse en effet.
C'est pudiquement dit.
Oui, c'est ça. Oui, je trouve que c'est quelque chose de que j'aime beaucoup le vin. Et d'ailleurs, j'ai un ancien collègue qui, à l'époque d'Old Olaf et Monsieur D, il a arrêté d'être artiste pour être viticulteur. Voilà, il a pris des vignes dans le Bordelais, dans le Grave. Voilà, il a arrêté l'année dernière parce qu'il en avait marre à cause des conditions. Il a perdu 2 récoltes à cause des grêles et puis des gelées tardives. Mais donc ça a été très très dur. Mais il faisait un vin qui était délicieux qui s'appelait le Château Lutèce. Je peux le dire parce qu'il n'existe plus. Du coup,
on peut peut-être le trouver.
Il y se retrouve encore, mais c'est un très bon Grave. Voilà, pour ceux qui il l'a fait dans 3 couleurs.
Et dans le camping-car, qui s'occupait de la tambouille
Alors,
et du vin.
Alors, une chance extraordinaire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rémi Payet, qui était le papa du guitariste qui était avec moi, Victor, et qui nous a suivis en moto une partie du trajet et qui allait faire les courses. Il nous faisait des places. C'est quelqu'un de très, très marrant.
Ah, parce que vous n'avez rien foutu. Vous faisiez que la musique.
Nous, on est des intellectuels, tu comprends. Nous, c'est l'art.
Mais ce que disait Mathieu est vrai, c'est que vous avez souvent le guide Michelin dans la poche, non?
Mais là, c'était le Michelin pour les cartes et pour le guide. Je dois avouer que j'ai l'application Michelin et quand on est en tournée avec les copains.
C'est bien pratique, ça. Hein.
Et on est tous des amoureux de la vie. Et puis, ça arrive qu'au moment où on regarde un petit peu qu'est-ce qui est bien noté dans la région. Et on découvre des endroits assez merveilleux, en effet.
Pas un seul McDrive durant tout l'itinéraire, alors?
Écoute, j'aurais du mal à le jurer, mais je crois qu'on est. Mais non, on était dans des zones où il n'y avait plus de tout ce qui est McDonald's, d'électricité,
des zones blanches.
Tout ça, ouais.
On va recevoir Olivier Pouls, notre expert en gastronomie. Il ressemblerait à quoi le dîner parfait chez Old Olaf? Il y aurait qui et on mangerait quoi?
Oh, j'aime bien, famille, amis, c'est très simple. Un cadre très, très simple, et puis après, je pense que c'est les choses. Ouais, ce sera du saucisson, pain, fromage et vin. Ouais, je crois que là, c'est très simple.
Pas une seule célébrité autour de la table. Pas Barack Obama, comme souvent les gens.
Michel.
Mais non, mais Mathieu, comme ça, je pourrais dire que c'est un peu un dîner de Noël et je serais ravi.
Et comme playlist en bouffant du saucisson, on écouterait Les Innocents, Alain Souchon et Joe Dassin. Vous avez des goûts assez éclectiques. Hein.
Il y aurait les Beatles et le VRP, on serait, voilà, ce serait parfait. Ah ouais. C'est ça, oui. C'est tout à fait ça.
Éclectique, comme lui, son nouvel album s'intitule L'Aventure, il sort demain. Talentueux et gourmand, Old Olaf est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si Old Olaf reste avec nous si volontiers, c'est qu'il sait que dans quelques instants, nous allons être rejoints par un être éminemment festif. Le seul type que je connaisse capable de s'exclamer à 8h du matin.
Tu m'auras bien un petit coup de poiré.
Olivier Poul s'échauffe pour Délice in Extremis, votre recette de dernière minute qui prendra aujourd'hui la forme d'un pique-nique de dernière minute. Hommage au Tour de France en camping-car de notre invité Old Olaf. Et d'ailleurs, Old Olaf, puisque vous avez la présence d'esprit de venir avec votre guitare, l'heure est venue d'en faire profiter à nouveau la France. Voici Patrick Bruel en live sur Europe.
C'est la chanson qui s'appelle Patrick Bruel.
Ah oui,
il faut que vous le précisiez.
C'est Old Olaf. Oui, parce que Patrick, il n'a pas pu venir. Mais Old Olaf, lui, chante Patrick Bruel sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui stimule vos neurones, dynamise vos zygomatiques et prend même le temps de taquiner vos papilles. Et à la question, pourquoi cette version saxophone d'un tube de Marvin Gaye ici à ce moment de l'émission? Eh bien, tout simplement parce qu'entre Eva Rock et Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, si chaud bouillant qu'on le surnomme Monsieur Chaleur Tournante, ça se concrétise de plus en plus et de moins en moins discrètement aux grandes dames de la compagne légitime d'Olivier qui découvre effaré ce qui se passe dans le secret d'une chambre de l'Ibis Budget de la Porte de Versailles entre son Olive et cette briseuse de coupe qu'on appelle la baraque à soccer.
Ça va, non?
Ouais.
T'es loin de moi, là.
Ouais, j'aime pas ça.
Et si un doute subsiste?
Bon, et pour notre affaire?
Notre affaire est
bien
en cours.
Elle est bien avancée ou pas?
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, je ne rentrerai pas encore chez moi ce soir.
Non, ce soir vous ne rentrerez pas.
Vous prêtez votre canapé.
Comme vous consacrez désormais tout votre temps libre à la drague, vous n'avez plus trop le temps de bosser vos recettes. Du coup, ce soir, pique-nique, vous vous foutez vraiment de ma gueule.
Pique-nique et recette anti-tristitude, mais juste avant, puisque Old Olaf est là et qu'il a gentiment accepté de garder sa guitare avec lui, je vous propose
tu m'as
supplié de lui écrire un petit couplet de tristitude culinaire. Alors, ça pourrait donner ça. La tristitude, c'est quand à la cantine tu prends des épinards, quand ta copine te dit qu'elle n'aime pas le lard, quand pour manger il n'y a plus qu'un carambar. La tristitude, c'est quand ta bouteille de pétrus est bouchonnée, quand tu trouves une poêle de touffe dans ton pâté. Quand c'est Mathieu Noël qui prépare le dîner, ça c'est pas bon. La tristitude, c'est vous, c'est nous, c'est eux. C'est quand le cuistot a chopé de la gastro.
Ah là là. Et mais voilà. Qu'est-ce que je vais faire de vous, Olivier ? Je ne sais pas, mais merci, merci.
C'est un moment historique, moi, je trouve.
De vous avoir accompagné.
Est-ce qu'on peut partir ensemble alors, sur les routes entre
mais c'est acté, c'est acté.
C'est bon, oui.
J'en appelle à tous les producteurs qui écoutent Europe 1.
Enchaînez, Olivier, moi, je peux pas.
On hésite entre le rire et l'embarras.
Parlez-nous de votre pique-nique.
Petite recette anti-tristitude, justement, qu'on pourrait emmener, évidemment, dans le camping-car. Alors, s'il y a bien un produit qui est anti-tristitude, anti-déprime, c'est le chocolat. Et donc, bien sûr, petite mousse au chocolat, rapide, efficace et inratable, que vous pourriez donc emmener en pique-nique, mais aussi manger chez vous, tranquillement ce soir. Alors, c'est vraiment simple. Vous allez voir, il vous faut 200 grammes à peu près de chocolat. Moi, je prends du chocolat noir, 4 blancs d'œufs, 2 jaunes, 2 cuillères à soupe de sucre et une petite pincée de sel.
Olivier, visiblement choqué par votre prestation. Jean-Philippe Ballas, ça peut être une prestation.
Il a eu au cœur. Je reviendrai.
Il est parti essayer d'écrire lui aussi quelques couplets et voir si éventuellement, avant la fin de l'émission, il peut se poser. Il y a 3 points en jeu quand même. Donc, tout simplement, on va faire fondre notre chocolat tranquillement dans un bain-marie. Au moment où il aura tiédi, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop chaud, on va rajouter nos jaunes d'œufs dedans, notre pincée de sucre. On monte les blancs...
Notre sucre, le sel, on va le mettre.
Parce que le sel, je ne l'ai pas oublié cette fois-ci.
On peut mettre ce chocolat, Eva.
Mais oui, mais...
Une petite pincée de sel, parce que ça...
À la fin.
Dans les blancs d'œufs que l'on va monter. Et ensuite, on va tout mélanger doucement, tranquillement, en gardant évidemment le côté aérien de la mousse. 2 heures au frigo, vous avez une mousse au chocolat anti-tristitude, anti-déprime, facile et pas cher.
2 heures au frigo, mais combien de temps pour la préparer ?
Il y en a vraiment pour le temps de faire fondre le chocolat, de monter les blancs en neige. Alors, si vous avez un appareil, ça va très très vite. Sinon, c'est un peu d'huile de coude, c'est un petit peu plus long. Mais enfin, on va dire qu'en un quart d'heure, votre mousse au chocolat, elle est prête.
Eva ?
Vous cuisinez quel genre de plat, vous, Oldelaf ?
Alors, je suis plutôt salé que sucré, je dois l'avouer. Mais je ne suis pas un mauvais cuisinier. J'adore faire des fonds de sauce, donc des plats. Alors, c'est jamais des plats totalement régime, je dois l'avouer. Mais j'ai créé.
Je pense qu'on va s'entendre.
J'ai créé des petites recettes. Non, mais j'aime beaucoup. J'ai créé un hamburger d'écrevisse en entrée. Avec des tranches de betterave, avec une tomate et puis un fond de...
Ouais, mais je vais venir goûter ça.
Hein. Non, mais j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup avoir des amis. Quand je fais à la maison, j'aime bien faire du assiette par assiette.
Et vos enfants, ils préfèrent votre cuisine ou plutôt...
On est vraiment sur du nugget.
Ouais,
ce genre de choses, c'est déprimant possible. Non, j'ai un des enfants qui est un très très fin gourmet. Qui adore ça. Ouais.
Alors, chers auditeurs, vous aurez noté cette séquence culinaire un peu particulière, puisque notre invité nous a livré la recette d'un hamburger d'écrevisse assez complexe, avec vraiment beaucoup de travail. Et le spécialiste gastronomique de l'émission nous a proposé une mousse au chocolat à la con.
Oui, donc,
merci Olivier Pouls. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
C'est le trouillomètre à zéro que nos journalistes attendent le verdict final. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Anis Mbida, Emmanuel Dutheil ou bien un membre de la paire Ballas-Lacroix ? Oldelaf, un pronostic ?
Deux frères jumeaux qui sont nuls, vraiment, les deux. On peut dire qu'il y en a un qui est plus nul que les autres, ils sont tous les deux aussi nuls.
Méfions-nous quand même, sur un malentendu, à tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 arrive à son terme. Nous allons procéder au vote, mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire appel à votre humanité. Au lieu de voter avec votre cerveau pour la chronique la plus aboutie et le journaliste le plus méritant, j'aimerais que vous votiez pour le journaliste pas forcément le plus méritant, mais qui en a le plus besoin, psychologiquement parlant. Je pense à un journaliste éco bloqué à la 11e place du championnat et pour qui gagner dans cette émission relève désormais du rêve.
Mais les rêves peuvent se réaliser et vous pouvez vous réaliser ce rêve.
Alors mon cher Oldelaf, votez pour qui vous voulez, mais pensez à ceux qui souffrent. C'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur cause. Anis Mbida, pourquoi Oldelaf devrait-il voter pour vous ce soir ?
Alors peut-être pas pour faire l'apologie des robots chanteurs, mais en fait j'ai l'impression de vous avoir fait découvrir qu'un robot pouvait chanter avec une belle voix, donc peut-être que ça peut me donner un point.
Contrairement à vous, Anissé, parce qu'on n'a pas diffusé le son mythique où vous chantez Queen. Je peux dire que ça, Oldelaf, vous avez entendu beaucoup de conneries dans votre vie. Vous avez entendu Olivier Pouls chanter La Tristitude.
Ouais, on ne pouvait pas mettre les deux en même temps.
Ça va trop loin. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous ?
C'est Eva Rock qui m'a soufflé ce sujet street art, donc votez pour moi,
c'est un peu voté pour elle.
Ah, et ça, pour une fois.
Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de fans des Baroches.
Ouais. Ouais.
Jérôme Lacroix.
Hold the Love, parce que moi aussi j'étais toujours choisi pour être gardien au handball. Et que vous allez entendre la détresse dans le creux de ma voix. Je cite la tristitude.
Petite référence à la tristitude. Bien joué, GG. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour
vous ? Parce que grâce à moi, on va pouvoir s'envoyer en l'air.
Oh, oh coquinou. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Je sais que je vous le dis souvent, mais là c'était serré, c'est à 1% près. Mmh. Et c'est Jean-Philippe qui remporte les deux points du public.
Jean-Philippe Ballas. Merci. Et le squat gens. Dans le Queens et le street art. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Emmanuel Dutheil. Ah, parce que j'ai envie de voyager logique, en écho allongé, moi qui suis très grand.
Logique, vous appelez les autres à voter pour moi.
Il fallait un peu logique, effectivement, et j'ai fait montre d'un peu de logique. Mais n'insistez pas trop, ne vous foutez pas de ma gueule, sinon j'enlève vos points.
Je ne gagne qu'un seul point là, donc c'est
oui,
rien.
Oui, hein. qu'un seul point, c'est pas rien. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui décide in fine. Hold the Love, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour? Qui au contraire aura sa place dans la prochaine version de La Tristitude?
Je ne voudrais pas qu'il y ait une justice, je vais justifier mon choix. Je suis touché par le fait que, voilà, que tu aies mis, Emmanuel, une chemise avec un petit pull. Mais ton insensibilité à la musique m'a déçu.
Il faut tenter de me convaincre.
Cette insensibilité, Anissa, je suis désolé, faire chanter des robots, moi, c'est un petit peu des concurrents potentiels. C'est dur
pas
pour
très
moi.
Mal à Anissa.
Je pense surtout qu'ils sont certainement beaucoup plus veltes que moi. En tout cas, Jean-Philippe, tu as parlé du street art. Je t'ai dit que j'étais plutôt salé que sucré. Donc le street art, ça, c'est moins pour moi, tu vois.
Je vous ai dit que je faisais une chronique à 7h50 le matin sur Europe 1 de culture. Je voulais parler de notre album, c'est dommage. Il vous reste un peu de temps.
Il est prêt à tous les coups bas.
Donc je vais donner mon point à Jérôme et mes points, parce que je crois que j'en ai plusieurs.
Vous en avez trois.
Voilà, je trouve que c'est bien de la condition féminine. Voilà, j'étais touché par le sport de surcroît. Voilà, donc
la révolution dans le sport féminin. Et oui, c'est donc Jérôme Lacroix qui remporte cette 122e journée de l'équipée sauvage. On remercie notre invité du jour, Hold the Love, dont le nouvel album L'Aventure sort demain.
Je t'aime la France.
Nous aussi, on l'aime fort. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix, Nissem Bida, Emmanuel Dutheil et Olivier Pouls, qui peut-être à l'orée d'une nouvelle carrière dans la chanson, qui sait. Juste le temps d'apprendre à chanter juste. L'équipe est sauvage, revient demain 16h.